Vague verte.
Les grands gagnants de l'élection.
Un maire écolo, ça change.
La déception de certains électeurs.
Beaucoup d'électeurs dans ces villes ne sont pas satisfaits.
Il n'y a pas une place ici. Hein.
Il est plus un projet de bétonisation que de végétalisation.
La droite rêve de récupérer sa place.
Il y a une évolution globale de droitisation de la société.
Le stationnement s'est dégradé aussi, c'est sûr. Hein.
La ville est quand même vraiment faite pour nous aujourd'hui.
Les écologistes sont restés des écologistes sectaires.
Lyon, Grenoble, Strasbourg, les maires écolos pourraient être bien battus aux municipales cette année. Il faut dire qu'en ce moment, l'écologie politique, c'est plus vraiment le truc le plus populaire, c'est plus vraiment la mode. Aux municipales de 2020, les Verts ont connu une vraie vague de succès. Des villes comme Tours, Besançon, Bordeaux, Strasbourg ont été remportées haut la main par des maires écolos. Ils seraient une force politique de premier plan, comme le titrait le journal Le Monde au lendemain des scrutins de 2020. Mais voilà, on a l'impression que les gens n'en peuvent plus de l'écologie politique. À Grenoble, le maire néglige la sécurité au profit de l'écologie et surtout l'assume. À Strasbourg, la mairie revient sur sa décision de supprimer l'éclairage public la nuit. Et à Lyon, ils ont dû supprimer les ZFE qui interdisaient l'accès à certaines voitures jugées trop polluantes. Et si on zoome un petit peu sur Bordeaux, la ville qui était tenue par Alain Juppé et qui arrivait en tête des villes où les Français voulaient vivre en 2015, et bah il s'avère qu'elle dégringole depuis que les écolos ont la ville dans le classement des villes et villages où il fait bon vivre. La ville est passée de 8e en 2020 à 48e en 2026. Et puis quand on lit la presse, on a l'impression qu'il y a un consensus. L'écologie politique ne marche pas trop à l'échelle municipale. Il est donc l'heure de faire le bilan et d'essayer de comprendre pourquoi les Français en ont marre des verts. Voici un top 5 des pires décisions prises par des maires écolos. Alors juste avant de commencer la vidéo, je me permets de faire une petite digression pour vous dire tout simplement de vous abonner, de mettre la cloche et de commenter si ça vous fait plaisir. Depuis longtemps, les écolos ne montrent pas beaucoup d'enthousiasme en ce qui concerne les fêtes traditionnelles françaises. Ils estiment que celles-ci sont en contradiction avec les principes de l'écologie. En 2020 par exemple, Grégory Doucet, alors maire de Lyon, avait jugé le Tour de France machiste et polluant. Assez étonnant venant d'un écolo qui est censé préférer le vélo à la voiture, mais passons.
Quelque chose qui ne comprend pas.
Noël est donc devenu une cible assez facile pour les Verts, et plus particulièrement le sapin de Noël. Alors qu'il vient d'être élu à l'automne 2020, Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, annonce lors d'une conférence de presse qu'il n'y aura pas de sapin naturel sur la place Péberlan, comme c'est le cas chaque année.
Sur l'arbre mort de Noël de la place Péberlan, nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville.
À ses yeux, les sapins qu'on coupe dans une forêt pour les installer en ville sont, je cite, des arbres morts. À cela, les réactions vont pas être franchement bonne, le maire va carrément recevoir des menaces de mort, mais malgré tout ça, le maire refuse de revenir sur cette décision.
Il y a des choses plus importantes à faire que annuler ce sapin de Noël qui est un symbole pour Noël.
Sauf que l'année d'après, miracle, pour satisfaire ses détracteurs, Pierre Urmic décide d'installer un sapin sur la place. Et comme monsieur n'aime pas beaucoup les arbres morts, le sapin sera cette fois conçu en verre et en acier recyclable. Une sorte d'œuvre d'art qui coûte 135 000 euros. Réaction des habitants un peu mitigée.
Je trouve que c'est original. Pour moi, c'est pas un sapin, c'est une sculpture de verre. C'est pas un vrai sapin.
C'est original, c'est moderne. Mais moi, personnellement, je préfère le bon vieux sapin avec les décorations traditionnelles.
Seul argument intéressant pour justifier la mise en place de ce sapin, l'argent. Car oui, comme ce même sapin est utilisé chaque année, il a fini par devenir plus rentable que d'installer un nouveau sapin naturel tous les ans. Sauf que si Pierre Urmic n'est pas réélu aux élections municipales, bah en fait, ce sera rentable que très peu de temps. Et selon un sondage réalisé par Sud-Ouest, c'est un favori fragile. Parlons de Lyon maintenant, qu'on appelle aussi la ville des Lumières, la cité rodanienne, ou encore la capitale de l'ultra-droite violente et raciste, selon l'Humanité. Quel surnom préférez-vous ? En 2020, pour Noël, les mairies du 4e et 5e arrondissement de Lyon ont installé des sapins écolos en planches de bois, avec en guise de décoration des branches, des pommes de pin, des écorches d'oranges séchées et des feuilles mortes. Quand je vois ça, je peux pas m'empêcher de penser à ça. Évidemment, ce sapin ultra moderne ne plaît pas à tout le monde. On ne comprend pas vraiment pourquoi avoir coupé des arbres dans le but d'en faire des planches pour remplacer un arbre. Et pour montrer qu'ils ont bien retenu la leçon après la polémique de 2020, la mairie de Lyon installe ce sapin carrément dans l'hôtel de ville. Et enfin, cette fois-ci à Paris, les riverains du 12e arrondissement n'étaient pas très contents de voir des silhouettes d'arbres faites en bois de récupération. Ici, pas d'autre argument que l'esthétique.
On a voulu que les enfants aient des paillettes dans les yeux et pas des palettes, et on en a marre que le 12e soit transformé dans une zone zadiste.
Chez les écolos, l'argent n'est pas toujours très bien géré. À Strasbourg, par exemple, depuis leur élection en 2020, la dette est passée de 202 millions à 377 millions d'euros, c'est-à-dire 87% de plus. L'opposition estime que la mairie n'en fait pas assez pour attirer l'activité économique, mais à cela, la mairie répond que ce sont des investissements nécessaires. Ouais. Ces investissements nécessaires concernent les rues scolaires, les musées alsaciens et le musée zoologique de Strasbourg. Donc en gros, que des projets culturels, pas grand chose pour la sécurité dans un département où la délinquance a progressé de 8,8% en 2025 par rapport à 2024, selon la préfecture. À Lyon cette fois-ci, dans la fameuse capitale de l'ultra-droite, certaines promesses faites par le maire n'ont pas été tenues. En novembre 2019, dans une interview faite par le magazine Lyon Mag, Grégory Doucet et Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, avaient dit, je cite, « ni baisse, ni augmentation d'impôts ». Mais malheureusement, au bout de 3 ans, ils n'ont pas pu y échapper. La taxe foncière a été augmentée, la première hausse depuis 2015, la justification, le prix de l'énergie a grimpé. Une autre idée de projet qui n'a jamais vu le jour, construire un double périphérique reliant Francheville et Lyon, ainsi que Limonest et Lyon. Très bonne idée quand on voit ce qui se passe dans des villes comme Créteil.
À Créteil, à peine inauguré, le téléphérique connaît déjà des débordements. Des jeunes foutent le bordel à l'intérieur.
Avec au passage des centaines de milliers d'euros jetés par la fenêtre. Autre idée de génie, en 2024, la mairie finance un atelier de sensibilisation interespèces, le tout dans une approche philosophique pour que des agents municipaux parlent à des boulots pleureurs.
Qu'est-ce que tu fais, Denis ?
J'entoure l'arbre.
Mais pourquoi t'entoures l'arbre ?
J'absorbe son flux positif. Et je me décharge de mon négatif.
À Poitiers maintenant, ville de l'ouest de la France, gouvernée par l'écologiste Léonore Monconduit, cette dernière fait polémique en 2021 en affirmant avec conviction que l'aérien ne devrait plus faire rêver les enfants.
Mettre dans le même phrase rêve d'enfant. Et le fait de sauver des clubs aériens, je trouve que ça a quelque chose d'indécent.
Alors avec les écolos, il vaut mieux rêver de covoiturage, c'est moins polluant.
Et du coup, tu fais quoi dans la vie ?
Ah, parce qu'il faut se parler en plus.
Dans la foulée, elle annonce vouloir supprimer les subventions données aux associations de sport motorisés à cause de leur utilisation d'énergie fossile. Des associations qui permettent aux enfants de faire de l'aéroclub et de pratiquer l'aviation pour développer leur créativité. Ça fait 8000 euros en moins, ce qui est beaucoup pour des petites structures. Et bien sûr, tollé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'une ZFE ? C'est une zone à faible émission. Émission de quoi ? Émission de polluants atmosphériques. Les ZFE, c'est en gros des zones urbaines où il n'y a que des voitures qui polluent pas trop, qui peuvent y rouler. L'objectif est simple, améliorer la qualité de l'air. Quand on le dit comme ça, ça donne plutôt envie.
J'adore quand tu dis ça, j'adore ! Ah, tu le dis bien !
En décembre 2019, la loi d'orientation des mobilités est adoptée. Elle concerne surtout des villes qui ont dépassé les seuils réglementaires. Pour ces villes qui polluent trop, les règles sont plus strictes et doivent être appliquées plus rapidement. Et parmi les punis, nous avons la ville de Lyon. La métropole de Lyon, tenue par Bruno Bernard, lui aussi écolo, a commencé à appliquer la loi dès le 1er janvier 2020. Au début, ça concernait seulement les poids lourds et les véhicules de catégorie 4 et 5. Catégorie 4 étant ceux qui correspondent aux diesel immatriculés entre 2001 et 2005. Et en 2024, la métropole étend l'interdiction aux grandes axes qui entourent la ville de Lyon. Et puis à partir du 1er janvier 2025, tous les véhicules de catégorie 3 sont désormais interdits. Catégorie 3 signifiant les véhicules diesel d'avant 2011 et essence d'avant 2006. Selon l'INSEE, cette interdiction, elle concerne un quart des véhicules de la métropole de Lyon. En vrai, ça fait beaucoup. Et quand je dis métropole, c'est pas que la ville de Lyon, c'est aussi Caluire et Cuire, Bron, Villeurbanne et Vénissieux. Par exemple, si on ne prend en compte que Vénissieux, c'est plus d'un tiers des véhicules qui sont interdits. Globalement, les réactions, elles ont été assez négatives. En témoigne cette tribune du JDD, qui est sortie le 30 avril 2025, signée par un collectif d'élus de la ville de Lyon, du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ZFE quand l'écologie hors sol est source d'exclusion. Pour résumer, ils considèrent que les ZFE sont un délit de pauvreté. Les voitures catégorie 3 sont souvent âgées de 15 à 25 ans, or les personnes issues de milieux modestes qui roulent davantage avec de vieilles voitures n'auront juste pas les moyens d'en acheter une nouvelle. Selon la tribune, les ZFE, elles seraient surtout pensées pour les centres-villes en fait, pas du tout pour ceux qui habitent autour. Ceux qui n'habitent pas en ville, qui y bossent et qui sont obligés de prendre la voiture, sont par définition défavorisés. Pour rappel, selon l'INSEE, le 1er janvier 2020, sur les 65 000 actifs en emploi qui circulaient dans la ZFE, la moitié utiliser un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. En revanche, chez les résidents qui bossent dans une ZFE, il n'y a que 27% qui prennent leur voiture pour travailler. Autre contestation, le mouvement Les Gueux, initié par Alexandre Jardin sur les réseaux sociaux depuis janvier 2025. De manière générale, l'idée de la ZFE n'est pas acceptée par tout le monde. Il était même prévu que les voitures catégorie 2 soient interdites pour 2026 à Lyon, et ça a été finalement repoussé en 2028. Dites-vous que l'idée est tellement mauvaise que même la France Insoumise était en désaccord, ce qui a conduit à la suppression de cette loi par l'Assemblée nationale le 28 mai 2025. Et cette loi a été votée à la fois par le parti LR et RN, mais aussi la France Insoumise, au grand désespoir de Grégory Doucet et de Bruno Bernard. Le 10 avril 2024, une attaque au couteau a lieu sur les quais à Bordeaux. Bilan, un mort et un blessé grave, l'assaillant est tué par la police nationale. Une question se pose, que se serait-il passé si un agent municipal non armé avait été le premier sur place? Aurait-il pu neutraliser l'assaillant avec un simple taser? Car oui, pour info, c'est au maire que revient la décision d'armer ou non la police municipale. Et puis à Bordeaux, chez Pierre Urmic, c'est non.
C'est non.
Mais après cette attaque qui avait quand même plutôt marqué l'esprit des Bordelais, les policiers municipaux ne sont pas contents et se mettent en grève en septembre 2024 pour réclamer le droit de porter une arme de poing. Pierre Urmic, qui était philosophiquement opposé à l'armement des policiers, finit par rétro-pédaler et décide d'armer les policiers. Ça, c'est quand un maire écoute ses habitants, mais c'est pas toujours le cas. Pour d'autres mairies de gauche, les policiers ne sont pas toujours armés, comme par exemple Nantes, Rennes, Lille et surtout Grenoble, le tout malgré une insécurité qui ne cesse d'augmenter. Selon une étude publiée par le Figaro, de 2019 à 2024, il y a une hausse des cambriolages, des violences sexuelles et des vols de voitures. Mais pourtant, après qu'un agent municipal se fasse tuer par un chauffard en fuite, Piolle persiste et refuse d'armer la police municipale. Mais de toute façon, Piolle n'a pas l'air de particulièrement défendre l'APM, puisque dans la nuit du 23 novembre 2024, deux policiers poursuivent un chauffard en dehors de Grenoble. Ils ont donc agi hors de leurs compétences territoriales. C'est illégal, et de quoi vont-ils être sanctionnés? 24 mois de suspension sans salaire pour le premier et 6 mois pour le deuxième. De manière générale, si on prend un petit peu l'évolution de la société, l'insécurité est en train de globalement augmenter depuis des dizaines d'années, et donc forcément les policiers municipaux sont contraints d'intervenir de plus en plus et commencent à être de plus en plus armés, y compris dans des villes tenues par la gauche, comme Saint-Nazaire par exemple. Normalement ils ont des gaz lacrymogènes et des tasers, mais aujourd'hui ça ne suffit plus. Selon un sondage Ipsos réalisé en juin, la sécurité arrive en tête des priorités pour les municipales à 43%. Donc c'est un gros enjeu pour ces élections, mais peut-être que les programmes verts vont s'y adapter et évoluer philosophiquement. Depuis la crise énergétique de 2022, quand la Russie a décidé de couper l'approvisionnement en gaz à la Pologne et à la Bulgarie pour les punir de leur soutien à l'Ukraine, les villes françaises cherchent à économiser l'énergie. C'est normal. 30% des arrêts d'éclairage ont été décidés pendant la crise énergétique entre septembre et décembre 2022, surtout dans les zones urbaines et périurbaines. Alors l'idée peut paraître intelligente, sauf quand on oublie la sécurité des habitants. Prenons l'exemple de Grenoble, une ville qui a pas mal évolué, comme le dit bien Mister V, qui est né là-bas.
C'est qu'à la base ici, c'était une grande plaine et tout, des dinosaures et tout, qui mangeaient bien. Enfin, je dis ça, j'étais pas né, mais c'était, il y avait rien. Il y avait plein de dinosaures et je restais là comme ça.
Bon, blague à part, la ville est tenue par l'écologiste Éric Piolle depuis 2014. Ce maire, il lui arrive parfois d'organiser des soirées un peu spéciales, durant laquelle il coupe la lumière pendant quelques heures. Dans un tweet publié le 8 octobre 2024, la ville de Grenoble propose un jour de la nuit où l'éclairage public est éteint de 21h à 23h le samedi soir. Sur les 5 premiers commentaires, 4 évoquent des problèmes d'insécurité. Et puis si on est tenté de se balader en ville malgré l'absence de lumière, c'est compliqué puisque les trams sont fermés. Il y a un an, on était allé voir des habitants de la ville et l'un d'eux nous disait ça.
Ouais, ce que tu me disais, c'est qu'à Mistral, il n'y a pas d'éclairage public.
C'est ça, il n'y a pas d'éclairage public la nuit. Je peux pas parler au nom des femmes, mais je pense que dans la majorité des cas, les femmes sont plus en sécurité à Grenoble.
À Strasbourg maintenant, depuis 2023, ils ont éteint 30% des luminaires entre 1 et 5 heures du matin. En réaction, les habitants et certaines associations se sont plaints, comme Alsace Nature ou même Oser le Féminisme. Même si aucun lien n'a été établi entre absence d'éclairage et insécurité, la porte-parole d'Oser le Féminisme, Strasbourg, Ursula Le Maine, évoquait le fait que le traumatisme d'une agression pouvait clairement se manifester par une peur de la rue, et elle appelle quand même à prendre en compte le sentiment d'insécurité, même si ça reste un sentiment. Mais du coup, qu'est-ce que la mairie a fait? Ils ont travaillé avec les féministes pour essayer d'identifier les quartiers à risque dans lesquels, en gros, on pourrait remettre de la lumière. Sauf qu'on a bien vu avec l'affaire Claire Géronimi, cette femme qui avait été violée par un OQTF dans un quartier assez bourgeois du 8e arrondissement, que en vrai le risque d'être agressé sexuellement en ville ne dépend pas du tout du quartier où l'on se trouve. Et enfin à Lyon, ils ont testé d'enlever l'éclairage nocturne, mais ils l'ont très vite remis pour cause de manque de lisibilité pour la population. Et puis en ce qui concerne le lien entre suppression de lumière et insécurité, on peut pas l'établir officiellement. En revanche, certains articles, notamment dans Le Parisien, ont recueilli des témoignages montrant que certaines femmes ont peur. La présidente de SNCF Mixité, Assia Benziane, avait tweeté ceci en 2022 « L'éclairage public va intensifier le sentiment d'insécurité des femmes ». Et puis par ailleurs, le maire Michel-Henri de Saint-Léger-les-Domars, une ville où l'éclairage public avait été éteint, a dit que la délinquance a augmenté. Et puis enfin, une méta-analyse de 2002 regroupant 21 études aux États-Unis montre qu'il y a 14% de délinquance en moins dans les zones mieux éclairées. Et pour vous donner une idée, voici à quoi ressemble la ville de Bruxelles sans lumière. Bon, en fait, l'écologie politique, c'est un peu comme un GPS qui recalcule sans arrêt son itinéraire. Au début, on veut prendre la meilleure route, puis on se rend compte que cette route, en fait, va se confronter à des embouteillages, et puis on est contraint de changer de direction. L'écolo vend des projets qui donnent envie, sauf que ça fonctionne pas, et du coup, il doit rétro-pédaler. Et on le voit bien avec les municipales, où beaucoup de villes écolo pourraient bien tomber et se faire remplacer par une autre gauche ou par la droite. Et pour savoir ce qu'il restera de l'écologie en France, rendez-vous le 22 mars.